Aujourd'hui, la masterclass de Jean-Claude Mézières avec Toufik Hakem.
Bonjour, merci d'être venus nombreux pour cette masterclass avec Jean-Claude Mézières. Jean-Claude Mézières, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur, vous voulez pas qu'on dise que vous êtes un maître du 9e art, vous voulez pas qu'on dise que vous êtes artiste,
non,
vous pouvez dire artisan.
Un gratouilleur de papier.
Ok, donc vous êtes dessinateur et au Festival d'Angoulême où nous nous trouvons, à l'espace Franquin pour être précis, en fait un peu avant l'heure, les 50 ans de vos enfants, Laureline et Valérian, les deux agents spatiaux temporels, la série de BD de science-fiction que vous avez créée avec votre ami d'enfance, Pierre Christin au scénario et votre sœur Evelyne Tranlet pour les couleurs, est née en novembre 1967 dans les pages de Pilote, dirigée alors par René Goscinny. Franquin, Goscinny, autant de repères historiques dans tous les sens du terme, qui deviennent aujourd'hui dans cette ville dédiée au 9e art, des repères géographiques également. Il y a depuis cette année l'obélisque Goscinny sur le parvis de la gare d'Angoulême, pour marquer les 40 ans de sa disparition, comme il y a l'espace Franquin et le vaisseau Moebius. Je cite ces trois exemples parce que je sais, Jean-Claude Mézières, qui compte pour vous, Franquin le maître, Goscinny le père, et puis Moebius, l'ami virtuose.
Oui, c'est un beau trio. Moebius a vécu sa gloire, Franquin aussi. Goscinny a eu le temps de voir que son talent le récompensait. Et puis le pauvre, il en est mort beaucoup trop tôt. Donc ça, c'est une chose triste. Mais autrement, mon vieux pote Giraud, Jean Giraud, Jeannot, quand je l'appelais, comme sa grand-mère l'appelait, à l'époque où j'allais dessiner dans les jardins de, dans son jardin à Fontaine-sous-Bois, puisqu'il habitait les environs de Paris. Et l'été, on travaillait dans le jardin du grand-père, entre les poireaux et les poules du poulailler, parce que Fontaine-sous-Bois, c'était ça, avant qu'il y ait des bars HLM partout. Et on travaillait à l'ombre d'une toile tendue entre deux arbres. Et c'était vraiment les gamins comme si on était à la campagne. Et on ne savait évidemment pas que Moebius aurait un vaisseau et moi des expositions à Angoulême.
J'ai parlé de ces trois noms parce que je suppose, Jean-Claude Mézières, que Franquin fait partie de ces dessinateurs qui vous ont donné envie de faire la bande dessinée. René Goscinny, c'est bien sûr parce que c'est celui qui a accepté
la bande. Il a ouvert la porte.
Il a ouvert la porte. Et Moebius, parce que c'est un ami. Et il y a beaucoup d'amis, d'ailleurs, dans votre carrière, hein, parce que Pierre Christin est aussi un ami d'enfance.
Bien sûr. Le père de Christin était coiffeur pour messieurs et pour dames à Saint-Mandé, la petite banlieue qu'on habitait, et j'allais me faire... On s'est trouvé, Christin et moi, en fait, dans la même cave, au moment des alertes aériennes de la fin de la guerre, et il habitait chez sa tante, la voisine d'à côté, et on se réfugiait dans les mêmes caves, et on est devenus copains à l'âge de donc 4-5 ans au maximum, et puis on s'est vus, on s'est repérés. Comme d'habitude dans la vie, mais on s'est quand même suivi assez régulièrement, bien que nos études étaient totalement différentes, puisque moi j'étais déjà intéressé par le dessin avec beaucoup de plaisir et de négligence en même temps, et lui était un étudiant qui a fait l'université, qui a fait Sciences Po, qui a fait des tas de machins avec des tas de diplômes, mais qui continuait à aimer la bande dessinée. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés.
Alors, ça a commencé quand, cet amour pour le dessin?
Très tôt. C'est-à-dire que j'avais un grand frère, un frère aîné, qui est décédé il y a quelques années maintenant, et qui aimait le dessin. Les parents aimaient le dessin, incontestablement. Mon père faisait des petites aquarelles le dimanche. Il revenait en disant « ça va pas du tout » et il faisait tout, il recommençait, le pauvre. On disait « mais touche pas, c'est bien. » Non, 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 ça ne va pas. Et hop, et alors là, l'aquarelle était complètement foutue parce qu'il l'avait carrément passé à l'eau de Javel. Et ma mère faisait quand elle était jeune fille, ça remonte au début du 20e siècle, des dessins de décors, de d'abat-jour, de coussins, de trucs comme ça. Et mon frangin a retrouvé même au marché aux puces des fois un ou deux coussins peints par ma mère, il a reconnu et il a acheté. Et lui avait un vrai talent d'artiste et a fait l'école Boulle Paris, qui est une école donc de d'artisanat d'art, dont des trucs comme la gravure sur verre, mais ça c'était les années 50, hein, enfin, la fin des années 40 et le début des années 50, donc des trucs qui sont un peu barbares comme la gravure sur verre ou la gravure sur métal. Et puis il faisait de l'illustration fort bien. Il aimait les bandes dessinées et le matin quand il partait à cette école Boulle, il achetait le magazine OK Magazine, qui était un magazine de BD de l'époque, 1948, et il le regardait, la suite des aventures qu'il aimait bien, et il me le glissait sous la porte pour que je puisse, le jeudi, c'était évidemment jour de repos, et que je puisse lire la suite des BD à mon tour, parce qu'évidemment c'était un magazine pour deux, quoi.
Donc il vous a initié. Est-ce que vous avez commencé à dessiner très tôt, Jean-Claude Mézières?
Oui, alors justement, mon frère faisant des petites bandes dessinées qui n'étaient pas publiées, lui travaillait en amateur, il avait 13, 14, 15 ans, il n'était pas publié, mais il commençait à s'intéresser à ça, et il a même eu un dessin publié dans OK Magazine, ce qui était formidable, et dans OK Magazine étaient publiées les aventures d'un héros historique signé Al Uderzo, qui devait avoir 18 ans, j'ai fait le compte à peu près, ou 20 ans, juste pile, et qui me fascinait. Et lorsque ça m'est arrivé de rencontrer Uderzo une fois ou deux, comme ça, je lui dis, tu sais, je peux te dessiner à la tête de ton héros, je le connais par cœur, je le reproduisais. Donc c'est sûr que Uderzo, bizarrement, a été une de mes influences de tout début, puisque c'était mes premières lectures de BD. Puis, je suis passé à Tintin, parce qu'on m'a offert un album de Tintin, le Lotus Bleu. Alors, évidemment, j'en ai pris mes plein les yeux pendant des heures et des heures. Et j'ai commencé à dessiner des fausses aventures de Tintin. Dessiner, j'ai fait quelques pages. Alors, le Tintin était rigolo parce que c'était assez facile de reproduire la tête de Tintin avec sa houppette. Mmh. Et c'était un début d'histoire qui s'appelait Tintin en Californie. Et par contre, Tintin, il n'avait pas du tout la stature que lui donne Hergé, mais il ressemblait au héros d'Uderzo, c'est-à-dire il était costaud, il était grand, musculeux, etc. Donc ça a été Tintin complètement difforme, qui a duré 3-4 pages. Et puis je me suis arrêté là, et j'ai glissé après sur les premiers Spirou, que me prêtait un ami d'enfance, d'école. Et ça, les premiers Spirou ont été évidemment un éblouissement absolu, parce que il y avait ce dynamisme de Franquin qui faisait l'histoire de Robot, je sais même pas comment ça s'appelle. Et parce que je l'ai lu, il n'y avait même pas d'album à l'époque, c'était dans les journaux que mon copain avait gardé soigneusement et que il m'a donné, donc je les ai gardés soigneusement, puis je les ai redonnés après. Et donc toujours avec cette ration de 2 pages par semaine. C'est là aussi où le temps de macération d'un dessin était très lent, et on attendait une semaine entière que le gars qui met la main sur la clenche de la porte, qu'y a-t-il derrière ? Et des fois, il n'y a rien, parce que c'était vraiment un grossier suspense pour faire simplement qu'il se passe quelque chose dans l'exploration d'une maison, ou un truc comme ça. C'est rigolo de se rappeler de ça, parce que c'était une bande dessinée qui avait tout compris de ce qui va être la grande bande dessinée des années 60 et 80 et 100 et tout ce qu'on veut. Mais en même temps, il y avait un milieu d'artistes de talent extraordinaire, parce que quand même Uderzo, jeune, c'était franchement pas mal, et il a montré par la suite que c'était encore mieux, et de gens qui faisaient des trucs très beaux, Et puis à côté, la rédaction, comme il s'était déjà, la bande dessinée n'intéressait personne, ni les profs, ni les parents qui réprouvaient. Les profs réprouvaient, les directeurs d'école vous déchiraient l'illustré, parce que c'est comme ça que ça s'appelait.
Vos parents aussi ?
Non, ils étaient tolérants. Ils n'étaient pas bande dessinée du tout, mais ils étaient tolérants. Et le fait que on dessinait, que mon frère dessinait et que je dessine, faisait que ça, c'était acceptable, quoi. Et puis, ça devenait, les marches étaient franchies, les albums commençaient à être commercialisés, donc on n'achetait plus un petit machin dégueulasse, mal imprimé, toutes les semaines, on achetait un album qui coûtait, je crois, relativement cher. Moi, mon premier album du Lotus Bleu, 1950, je crois, je ne l'ai pas fait apprécier maintenant parce qu'il est en mauvais état. Mais
oui, vous l'avez gardé.
Je crois qu'il est quelque part dans une caisse au fond d'un garage, oui.
Vous souvenez-vous de votre premier dessin partagé, donc imprimé, édité, Jean-Claude Mézières ?
Oui, alors, il y avait le Salon de l'Enfance qui avait lancé un concours dans le Figaro, puisque le Figaro était le journal que lisait mon père. Et il y avait un concours de dessin pour faire partie de la rédaction du Journal des Jeunes, qui était un journal qui allait être publié, je crois, deux fois par semaine, pendant la durée du Salon de l'Enfance, 1952. Et il y a un concours. Et alors j'ai fait le concours, évidemment. Puis je l'ai eu parce que je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de postulants. Donc je suis devenu le dessinateur de ce Journal des Jeunes, qui d'ailleurs était dirigé par un grand de 15 ans.
Philippe Labreau.
Philippe Labreau, ouais, ouais. Voilà, vous connaissez l'histoire de ma vie, pourquoi je raconte tout ça?
Mais parce que je veux que vous nous décriviez ce premier dessin, Jean-Claude Mézières.
Eh bien, le tout premier, je vous avoue que je me souviens plus très bien. Si, je crois que c'est un gag hilarant, absolument bouleversant, qui représente le soir de Noël, puisque le Salon de l'Enfance se passait à l'époque de Noël, ou presque là. Et il y a un gamin qui a une boîte du petit bricoleur, et qui scie les barreaux de la chaise de la salle à manger de ses parents. C'est extraordinairement révoltant, rebelle.
Ben vous aviez quel âge ?
Et j'avais 12 ans. C'était assez formidable. Alors tout ça n'était pas rémunéré, bien sûr. J'ai encore quelques épreuves de ce malheureux journal où les articles sont aussi inintéressants que les bandes ne sont pas drôles, mais permettent à des gamins de 12 ans, entre 12 et 15 ans, puisque j'étais parmi les plus jeunes, de faire quelque chose et de le voir imprimé, ça fait du sérieux, quoi.
Mais déjà, on a vos influences qui vont pas vous quitter, c'est-à-dire l'amour du dessin, de la bande dessinée, des auteurs comme Franquin Gigey. Et quand j'entends Tintin en Californie, je retiens Californie. Est-ce que cet amour pour l'Amérique était déjà présent quand vous étiez enfant?
Vous avez bah, vous savez, américain. Les gamins de la Libération, d'abord, on avait donc 5-6 ans lorsque la guerre s'est terminée, et l'Amérique était incontournable, avec le flou absolument entre les premiers films, les premiers westerns que j'ai pu voir. Alors là, le premier western, et je crois que c'était le Lone Ranger, un truc comme ça, enfin, une histoire du justicier masqué, avec la chevauchée, c'est Guillaume Tell, la chevauchée de Guillaume Tell, comme musique de générique. Ça, alors là, j'avais vu ça dans un cinéma à la campagne l'été, c'était extraordinaire. Le western, les chevaux et tout. Mais évidemment, j'habitais à Saint-Mandé, et les seuls chevaux qu'il y avait, c'était les chevaux du laitier, qui venaient livrer des grands bidons de lait à l'épicerie en bas de chez moi, quoi. Mais ça y est, j'étais accroché. Et le mythe de l'Amérique, entre ce que le cinéma nous a très vite montré, les comédies musicales et nautiques avec Esther Williams, le bal des sirènes, etc. Ça reste des souvenirs technicolores, d'abord parce que le technicolore, c'était extraordinaire de voir ça en peut-être, oui, 47, 48, je crois. Je crois que c'est l'époque.
Ouais. Parlant de Valérian, les albums de Valérian ont commencé à apparaître en 1970 avec La Cité des eaux mouvantes. La BD de science-fiction va alors bientôt connaître son âge d'or en France, mais vous avez déjà un petit 10 ans d'avance, hein. Et pour le 40e anniversaire de la série, en 2007, vous décidez de la rebaptiser Valérian et Laureline. Là aussi, vous êtes en avance. Le combat pour la parité qui est venu d'ailleurs se manifester jusqu'ici au festival d'Angoulême, vous l'aviez mené avant les autres apparemment.
Oui, enfin disons que simplement Laureline avait volé la vedette de Valérian dès la page 12 de la première histoire à peu près, puisqu'elle sauve la vie de Valérian, cet imbécile qui s'est couché lors d'un voyage au Moyen-Âge, d'un saut spatio-temporel de retour en arrière à la poursuite d'un méchant technicien du futur qui veut chercher des recettes de sorcellerie ou un truc comme ça. Et il se couche dans la forêt dans une feuille magique qui le retient prisonnier. Et le lendemain matin, Laureline, qui se trouvait là de passage, le découvre enfermé dans cette feuille et prend son épée et taille dans la canopée de la forêt pour laisser passer le soleil et le délivrer. On savait vraiment pas ce qu'on faisait, mais effectivement, on a mis une nana, alors que à cette époque-là, il n'y avait pas une fille dans les bandes dessinées. Si Cabu a sauvé l'honneur, Cabu a sauvé beaucoup d'honneur, il avait fait déjà dans une page la fille du proviseur dont le grand Duduche était tombé amoureux. Donc il y avait une fille de représentant. Autrement, dans les bandes dessinées pour garçons, puisque le lectorat féminin était quasiment absent de ces journaux-là, qui étaient faits pour les gamins de 12 ans, les filles, eh ben, n'existaient pas. Et nous, tout naturellement, Pierre Christin, au scénario et moi au dessin, on a dit, ah ben, il me propose, Laureline va venir sauver Valérian. Ah oui, dessine une fille. Et je crois que j'ai eu plus de facilité à dessiner Laureline que je n'en ai toujours à dessiner la tête de Valérian, puisque Valérian, ça fait 50 ans que je le dessine, et sa tête varie selon les jours entre pas trop mal et vraiment raté.
Alors comment vous avez réussi à convaincre Goscinny de publier cette aventure, cet essai, parce que c'est de la science-fiction et elle n'était pas à la mode justement à cette époque. Hein. C'était 10 ans avant que la science-fiction n'arrive vraiment dans l'univers de la bande dessinée française.
Ah oui, je crois
au moins.
Au moins, oui. Et avec le fait que Goscinny qui, alors quand même, il faut faire très vite, mais je suis parti aux États-Unis pendant 1 an et demi, et je n'avais pas de billet de retour, et je m'étais dit, je me débrouillerais pour travailler, je travaillais un peu en publicité, et choses comme ça, donc je vais gagner de l'argent, et puis je me suis rendu compte que je pouvais absolument pas travailler aux États-Unis, évidemment, et l'idée a été de faire une petite histoire de 6 pages, et de l'envoyer à mon copain d'école, Jean Giraud, qui, lui, était dans ses premières pages de Blueberry à l'époque. Et donc, je lui ai envoyé ça en disant « Place ça dans un canard, ton pilote que je connaissais pas, mais ton pilote Spirou Tintin, etc. Mais envoie-moi le chèque parce que j'ai besoin de payer mon billet de retour. » Et c'est comme ça que j'ai fait ma première bande dessinée pour Goscinny, donc sur un scénario de Christin, puisqu'on s'est retrouvé au fin fond de l'Utah, à Salt Lake City, puisque Pierre était enseignant de littérature française pendant 1 an, et moi, je traînais mes bottes et mon cheval sur les routes de l'Ouest pour essayer de voir, de vivre comme on pouvait vivre de cow-boy. J'ai beaucoup vécu comme ça. Le seul problème, c'est qu'évidemment, j'étais pas payé, ou j'étais payé des misères. Donc, pour payer un billet d'avion pour revenir, il fallait revenir à une réalité contemporaine, c'est-à-dire pourquoi pas faire une petite histoire. Et c'est ça qui nous a remis le pied dans l'étrier, c'est le cas de le dire, pour dessiner, pour pilote, alors que j'étais encore en train de garder les vaches à cheval. Et ça, c'est très drôle parce que Goscinny a reçu ces planches-là et toutes les semaines, il laissait 6 pages vierges pour une petite histoire complète, qui était un galop d'essai,
ouais, d'expérimentation,
pour des jeunes auteurs, pour des gens qui avaient envie de faire quelque chose de différent, ou un auteur qui voulait changer de style, etc. Et donc, quand il a reçu ça, il s'est rendu compte que la bande dessinée américaine de super-héros, etc., n'a jamais été mon influence, mais par contre, la lecture de Mad Magazine, qui est ce magazine satirique et humoristique des années 50 et 60, a été ma bible graphique au niveau des merveilleux artistes qui travaillaient, Jack Davis, Kurtzman, Will Elder et d'autres que j'oublie ou je ne cite pas. Et c'était un dessin à la fois très raffiné, très poussé et très dynamique. Et ça, ça a été une de mes influences. C'est-à-dire que je n'ai jamais essayé de faire des bandes dessinées qui ressemblaient à tel auteur. Je prenais toutes les qualités des auteurs que j'aimais et je mélangeais allègrement un bout d'Hergé, un accord d'Hergé, des plis de pantalon à la Spirou, des nez à la Jack Davis et des semelles de chaussures à la Jack Davis surtout. Enfin bon, donc c'était très bâtard, mais ça montrait aussi une influence d'un certain humour que Goscinny a reconnu tout de suite. Et ça, il s'est dit, tiens, ceux-là, ils ont lu Mad, puisque à l'époque, le journal était diffusé en France. Et quand je suis rentré, il m'a dit, bon, bah, c'est pas mal, bah, continuez. Et j'ai fait un premier essai, donc tout ça, c'est avant Valérian, hein. Un premier essai avec un scénario de Fred. Fred...
qui est lui-même dessinateur.
Dessinateur.
C'est bon de préciser, oui, bien sûr. C'est
et un des grands prix d'Angoulême. Fred avait l'habitude de faire des scénarios, parce qu'à l'époque, Goscinny était prudent. Il trouvait que le dessin de Fred était un peu rustique pour être publié, et il attendait un peu. Et Fred dessinait ses scénarios. Ce qui, pour moi, était terrible, parce que donc je recevais des pages déjà esquissées avec le nombre de cases à faire, plus ou moins l'attitude du personnage, à la Fred, donc très très bâclé, très vite fait, et je devais mettre au propre. Et ça, c'était amusant et en même temps très frustrant, parce que j'avais envie de rajouter des gags ou des anecdotes, etc. Et ben, je n'avais pas vraiment la possibilité. Donc j'ai décidé que c'était une première histoire de 30 pages qui a été publiée, et ça m'a fait la main un peu. Mais c'est là où j'ai parlé avec Christin, qui était rentré des États-Unis lui aussi, après avoir été enseignant dans plusieurs universités de la côte Est, et en lui disant, il faut qu'on bosse ensemble. Et lui allait à Bordeaux, toutes les semaines, fonder l'IUT de journalisme de Bordeaux. Parce que lui, c'était une carrière universitaire qui visait, évidemment, puisque c'était pas le scénario de deux petites histoires de 6 pages qui allait faire boucher. Mais c'est pour ça qu'il signait Linus.
Et vous, très longtemps, c'était juste Mézir.
Moi, c'était Mézir, quoi. Voilà. La chance que nous avions de cette époque-là était que les journaux permettaient à un dessinateur débutant de faire des essais, de travailler avec un tel, puis avec machin, de dire, tiens, je m'entends bien avec lui, ça me va pas, j'aime pas faire ces histoires-là, ou je vais faire tout seul, etc. Et surtout, de faire des essais, puisque chaque fois, le deal était de faire 2 pages dans la semaine.
Alors, vous parlez de votre trait, Goscinny, par exemple, vous donnez des conseils ou...
Non, Goscinny regardait la logique du scénario, et de dire, ça c'est bien, on comprend pas très bien ce qui se passe là, pourquoi il sort et il revient, et peut-être qu'il aurait pas dû faire ça avant. Alors, les planches étaient très rarement refusées, c'était pour les histoires à suivre. À l'époque, les pages d'actualité n'étaient pas arrivées encore dans le journal, et donc c'était... des histoires à suivre, et donc il n'allait pas nous demander de détricoter 5 pages, ou alors il disait non, ça va pas, bien sûr, il avait l'autorisation de refuser une parution, mais en général, ça passait de justesse, mais c'est pour ça la grande disparité des qualités de ces dessinateurs pendant l'histoire. Il y avait des professionnels déjà, des gens extrêmement habiles. Et Uderzo, lui, faisait déjà 4 pages ou 6 pages ou 8 pages par semaine, je ne sais plus, entre les Chevaliers du Ciel, Astérix et d'autres publications des fois. Un boulot de fou, quoi. Et puis des besogneux, des gens qui ont fait des trucs pas mal ou des trucs pas bien du tout et qui ont fait une carrière, qui sont partis vendre des automobiles ou un truc comme ça.
Alors, comment est née cette série de Valérian?
Valérian, c'était en fait vraiment... D'abord, c'était pas une série, hein, c'était une histoire de 30 pages. Et 30 pages, c'était plus de 6 mois de boulot pour moi. toujours pour 2 pages par semaine. D'abord, on va faire une histoire de science-fiction. Bon, je revenais de l'Ouest américain, mais les cow-boys, il y en avait à l'appel. Dans tous les journaux, tout le monde dessinait des histoires de cow-boys.
Et plutôt bien pour certains d'entre eux. Certains,
mais il y en avait d'autres très mauvaises aussi.
Bon.
Mais... Et je connaissais J.G., je connaissais Giraud, je connaissais Franquin, que j'admirais, et ses chapeaux noirs étaient un modèle pour moi. Et je connaissais, non, je connaissais pas encore Maurice, mais je connaissais les Lucky Luke de Maurice à fond, puisque je disais, quand j'ai rencontré Maurice plusieurs fois à Angoulême ou ailleurs, j'ai dit, tu sais, mon salaud, qu'est-ce que je t'ai donné comme pognon quand j'étais petit, quand même, parce que j'ai acheté tous les albums de Lucky Luke, et il commençait déjà à en produire énormément. Donc le western me paraissait un pari impossible, et je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus, à part que moi je savais à peu près monter à cheval, et peut-être pas eux, mais ça changeait rien. Et donc on s'est dirigé vers ce qui était pour nous une grande connaissance, et surtout pour Christin, la littérature de science-fiction des années 50 et 60, les grands classiques de Poole Anderson, à Jack Vance, à bien sûr Asimov, etc., qui étaient des bouquins qu'on avait lus, et on savait que la littérature de science-fiction existait. Par contre, sa représentation graphique, il y avait quelques histoires de science-fiction. Il y a eu dans la bande dessinée française quelques histoires de science-fiction. À l'époque, il y avait les Pionniers de l'Espérance qui avaient marqué, parce qu'ils étaient largement connu dans la presse de Vaillant, bien sûr, Poivet, donc. Il y avait Gillon, qui avait travaillé avec Forrest dans Chouchou, c'était les Naufragés du Temps. Ça avait commencé, puis ça s'était interrompu, c'était dans le début des années 60. Et puis il y avait évidemment Forrest qui avait fait Barbarella, mais Barbarella n'était absolument pas connu, puisque c'était dans une revue légère, ça s'appelait V Magazine. Donc ça, c'était mes influences graphiques. Et Valérian...
Vous avez eu des problèmes pour Valérian, mais quelqu'un vous a soufflé le nom d'un chanteur à la mode à l'époque.
Oui, oh, c'est-à-dire qu'il y avait une chose...
Hugo Frey, pour le nommer.
Voilà, Hugo Frey figurait dans un magazine qui était un magazine de jeunes, Salut les copains, un truc comme ça. Et il y avait une double page avec au moins 20 ou 30 expressions de visage d'Hugo Frey. Et sachant que mon copain Giraud avait commencé son premier Blueberry en prenant la tête de Belmondo, je m'étais dit, c'est pas une mauvaise idée de s'appuyer sur une tête de personnage réel pour faire. Mais avec le dessin que j'avais, autant l'évolution de la tête de Belmondo s'est très rapidement développée pour être Blueberry et parfaitement bien, moi, mon personnage ressemblait dans un dessin maladroit à quelque chose avec simplement, j'ai retenu les cheveux qui tombaient. Et c'est à peu près tout ce qui reste de Hugo Frey. Et le brave homme ne m'a jamais accusé de l'avoir abîmé le portrait, et tant mieux comme ça. Mais peut-être parce qu'il s'est jamais reconnu, et je comprends que ça soit normal qu'il ne veuille pas se plaindre que ça lui ressemble pas.
Alors aujourd'hui, quand on crée une série, bah, généralement on écrit la charte, on sait à peu près où on va, on se donne des repères dans le temps. Est-ce que ça a été le cas pour Valérian ? Non, puisque vous ne saviez pas que ça allait avoir du succès et que la série va s'imposer.
Oui, on avançait absolument à l'aveugle. Le but était de faire des histoires qui paraissent dans ce journal. Et en 1970, le patron de Pilote, Monsieur Dargaud, me dit, ah, mais on va faire des albums. On va faire, et on venait de sortir nos 2 épisodes de 30 pages de La Cité des Eaux Mouvantes et de Terres en Flammes, qui était la suite, le 2e 30 pages. Donc, problème à résoudre d'abord, les albums étaient en fait imprimés sur une seule feuille de papier où il y avait 24 et 24, 48 pages recto verso. Pour faire plier et façonner, c'était un album de bande dessinée. Déjà, nous, on avait fait 60 pages. Alors, Pierre a fait absolument ce qui ne se fait pas en bande dessinée, mais on a fait comme si on était en train de faire du cinéma. On a fait un remontage, on a coupé des séquences en disant, pas très important, c'est pas très très bien, et on a juste rectifié quelques petits dialogues pour mettre en place que la rupture ne se voit pas, et on a supprimé une douzaine de pages pour que ça rentre sur les sacro-saintes 48 pages.
Alors comment on imagine une histoire de Valérian et de Laureline ? Est-ce que ce sont des discussions avec Pierre Christin ? Est-ce que vous partez d'une idée et que voilà, c'est suite à une discussion, à des envies et de vous, le dessinateur,
D'abord, il y a les deux, mon capitaine, oui. Mais en même temps, d'abord parce que même en 68 ou 67, pour la création de Valérian, on était déjà des vieux copains. Donc on savait nos goûts et nos appréciations et nos dégoûts. Donc on savait bien qu'on n'allait pas faire une histoire de militaire, de culottes de peau, de héros. Donc on savait bien que c'était pas ça. Donc qu'est-ce que ça serait ? Ben ça serait autre chose. C'était des intermédiaires, etc. Donc beaucoup de choses étaient même pas dites entre nous, puisque c'était évident que c'était, on n'allait pas se lancer en disant on va faire un super héros à la française.
Mais alors justement cette originalité de dire ils ne seront pas des super héros, ça a été l'objet de débats, d'envie avec Pierre Christin ou
non? Ça c'est venu très naturellement et c'était même, je dirais, ça qui a provoqué la naissance de Laureline. Si le personnage de Valérian n'était pas un héros fort. Et parce qu'il y avait assez de flics, de militaires ou de cow-boys dans les bandes dessinées, donc on n'allait pas faire ça aussi. Et comme il n'y avait pas de femmes, c'était une évidence, mais c'était pas un calcul, c'était une grande naïveté. Ah oui, on va faire une fille. Ah ben elle est pas mal ta nana. Et c'est vrai que la première page, je l'ai revue l'autre jour, la première apparition de Laureline, elle est pas si mal que ça. Elle est beaucoup mieux que Valérian qui a traîné sa gueule de travers pendant des albums et des albums. Et tout ça, Pierre a déterminé ce que serait l'histoire. Et moi, je voyais comment j'allais le dessiner. Quand il m'a proposé un New York envahi par les eaux et avec une chaleur tropicale et des plantes qui grimpent et des ponts de lianes à travers la 42e rue, etc. Je venais de vivre à New York et je connaissais bien. Et pour moi, c'était une trouille, un plaisir et une trouille en même temps, parce que évidemment, personne n'avait dessiné ça. Il fallait trouver les ambiances et dessiner des flamants roses qui s'envolent dans la 5e avenue, que t'es pour la 5e avenue, d'ailleurs, parce que je travaillais pas d'après photo, je dessinais en cachant le plus possible de les fenêtres sous la végétation.
Mais alors, comment vous travaillez, Jean-Claude Mézières, pour nourrir votre imaginaire? C'est de la documentation?
Parce que les documentations sur les planètes extrasolaires sont rares. Non, je dirais, si je le fais, c'est que je peux le faire. C'est que, pour moi, dessiner la punition, c'est de recopier un char ou une moto mitrailleuse de machin. Voilà. Ça, c'est une punition absolue de compter le nombre de boulons qu'il doit y avoir là. Ou je ne reprendrai jamais les chevaliers du ciel.
Est-ce que se projeter dans le futur avec ces deux agents spatio-temporels de bande dessinée, est-ce que cela vous force à imaginer le monde de demain à partir des exigences, des attentes ou même des frustrations du présent? Parce que maintenant qu'on a le recul, quand on lit Valérian, on se dit, mais ils étaient visionnaires. La série a été visionnaire à plus d'un titre. Le thème de l'écologie, par exemple, qui apparaît très tôt, et d'une manière d'ailleurs explicite, dans Bienvenue sur Aflolol, où en 1972, et même la catastrophe de Tchernobyl, est annoncé pour l'année de la catastrophe en 1986 dans un album paru 15 ans plus tôt.
Oui, ben ça d'abord c'est purement et c'est l'honneur du travail de Christin parce que c'est lui qui dresse la structure du récit. Au début, on a parlé de ça, il y aura une catastrophe dans un futur parce que Valérian était il est dans le futur du 28e siècle et revient sur Terre au moment de la catastrophe où les glaces du pôle Nord, on s'était arrêté au pôle Nord, là, ont fondu avec cette explosion atomique. Donc c'était 1984 était pris par Orwell, donc on a mis 1986. Hein, allez, hop, ça ira. Et puis évidemment, on n'avait pas la moindre idée que 50 ans plus tard, on allait dépasser 86, et à lui, mon cher scénariste, de se débrouiller pour justifier ça et comment on va gérer ça. Ça, c'est les problèmes du scénariste. Moi, j'arrive, une fois que les gros travaux sont faits, c'est-à-dire il a établi un plan de campagne et on va discuter de telle ambiance, etc. Et c'est presque justement dans la suggestion de ce que va être l'atmosphère du récit que je vais réagir en plus ou en moins pour faire ma part de création. C'est une espèce d'échange d'équilibre des plateaux de la balance. C'est-à-dire que si Pierre dit « ça va être dramatique, il y a une explosion atomique, etc. », je pense « oui, mais il faut quand même qu'on rigole encore un petit peu, donc il va falloir que les personnages soient plus légers. Enfin, »
C'est vous qui avez la main pour dire les choses.
Oui,
comme
mais
ça,
hein. On travaille en plein accord. Si
Des fois quand vous le coupez, c'est pas en plein accord.
Ne rentrons pas dans les scènes de ménage.
Non, mais le Christin dit les choses très franchement. Il imagine des situations, mais ces situations et ces personnages ne deviennent réels que lorsqu'il voit vos dessins. Ça,
oui.
Il le dit.
Oui. C'est-à-dire que je leur donne vie, effectivement. Et c'est là où, moi, je vais dire, c'est à cause un peu trop là, ou peut-être que simplement aussi dans le découpage, je peux dire ce que Pierre pensait que ça serait dans une seule grande case, je vais en faire en trois cases, parce que je vais faire un jeu de scène, je fais la mise en scène. En fait, c'est le rôle qu'on s'est réparti, et d'une manière sans conflit majeur. Par contre, des discussions, il y en a toujours eu, et j'espère qu'on en aura encore longtemps, de dire, tu écris le livret de la pièce, et moi, je fais la mise en scène. Et donc, la mise en scène, moi, je mets la caméra là, ou je mets là, ou je vais présenter la séquence en plusieurs plans, et tout ça, parce qu'il y a un équilibre à trouver dans la page, dans la double page, et dans la séquence. Et ça, c'est mon organisation, ma narration graphique. Alors, dans la bande dessinée, ce qui est important, enfin, pour moi, ce qui est important, c'est pas le dessin. C'est-à-dire que des grands dessinateurs de bande dessinée, il y en a eu plein, et il y en a des beaucoup meilleurs que moi. Par contre, la narration graphique d'un récit qui doit s'enchaîner, absolument huilé, parfait, dans tout ce qui se passe, on suit entre le gars qui a sauté dans le temps, qui est revenu, etc. Des choses qui, par moments, c'est un petit peu compliqué. Il faut que ça soit fluide, qu'un gamin de 12 ans puisse le lire et le comprendre, et que les parents de 50 ans peuvent dire, oui, ça marche très bien aussi. Enfin, c'est là où, je crois, la narration graphique, qui était le grand combat de Will Eisner.
Que vous avez connu, d'ailleurs.
J'ai bien connu. On était assez amis. C'est là où que le récit soit fluide, que le récit soit parfaitement coulant, que ça soit, encore une fois, une logique interne qui est là, qui est entre le scénario et ce qui se passe, les dialogues, tout. Tout doit fonctionner pour que on le lise sans aucun accroc.
Jean-Claude Mézières, quelles sont les autres formes d'art qui nourrissent votre travail? On peut parler de cinéma, hein. Vous avez rendu un hommage au chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, 2001,
Oui. Le cinéma, ouais. Tous les dessinateurs de bande dessinée sont des grands bouffeurs de pellicules, c'est évident. Même maintenant, s'il n'y a plus de pellicules. Donc, on a tous été des amateurs de cinéma. Mais la bande dessinée et le cinéma, c'est pas logique. Faut pas croire que la bande dessinée, c'est le storyboard d'un film. Ça n'a rien à voir. Même si on parle de fluidité, de cadrage, etc. Bien sûr, c'est la même impression. Mais le récit dans un album est un récit très alternatif. On peut tourner la page, revenir en arrière, regarder, s'arrêter longtemps sur telle image, ou au contraire passer très vite et le lire plus tard, etc. Le cinéma vous distribue à son rythme, à lui, imposé, la narration, et vous ne ferez pas de retour en arrière. Donc, il n'y a pas une manière de dire il faut adapter cette BD en copiant la BD, etc. Non, c'est une erreur grossière. Il faut que le réalisateur prenne évidemment le plaisir d'interpréter à lui, à sa manière à lui, le récit qu'il a aimé.
Non, mais qu'est-ce qui influence votre dessin? Est-ce qu'il y a une autre forme d'art qui peut l'influencer
que sur la peinture? J'ai toujours été un regardeur de peinture classique, mais moi, je ne vais pas dans les expos parce que je ne veux pas passer 4 heures à faire la queue. Alors donc, je regarde des bouquins et puis je dis, ah tiens, qu'est-ce qu'il dessine bien ce cochon-là, qui c'est? Ah oui, bah d'accord, oui, bien sûr, si c'est lui, c'est bien dessiné. Et donc, je me suis amusé, et donc, on va le faire dans l'exposition à la Cité des Sciences. Il y aura un endroit qui sera une petite salue de clin d'œil ou hommage entre des dessinateurs, des peintres, des sculpteurs, des architectes et des rigolos, parce qu'il y a des copains aussi, donc de faire des petits clins d'œil pour des dessins ou même des références à des bouts de films de cinéma. C'est vrai qu'on se nourrit de tout et dans une expo, c'est sympa de dire, bah tiens, je ne sais plus, il y a ce peintre hollandais qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Willem Claes, un nom comme ça, et qui dessine des natures mortes, avec des gobelets en argent magnifiques, des huîtres, un citron avec une pelure de citron qui descend en se tortillonnant. Et j'ai reproduit ça dans une scène où Laureline, dans Les Héros de l'Équinoxe, Laureline est à la fenêtre du fort quand Valérian est parti se bagarrer avec les héros de l'Équinoxe. J'ai fait une petite citation parce que je suis tombé sur un bouquin où il y avait une reproduction de ce tableau. Je dis, oh ben ça irait très très bien juste là, à côté de Laureline qui regarde par la fenêtre. Eh ben, il y a les huîtres, les gobelets en argent. Et ça, c'est un clin. Ça n'apporte rien à l'histoire, mais certains peintres publicitaires américains du début du XXe siècle, comme Maxfield Parrish, avec des couleurs insensées, des trucs même un peu kitsch. Je trouve ça très drôle d'en faire des citations et de les inclure dans le parcours du récit, comprenne qui pourra. Et si on ne comprend pas, on ne perd rien, parce que ce n'est pas une intention narrative.
Jean-Claude Mézières, êtes-vous du genre à vous appliquer une méthode de travail? Genre horaire précise, des lieux adéquats, peut-être des rituels, je sais pas.
Pas trop de rituels, mais vous savez, ma seule vérité, c'est que quand on tape sur un clou pendant plusieurs années, eh ben il arrive à s'enfoncer ou il se casse, hein. Mais sinon il s'enfonce. Et le boulot de la bande dessinée, c'est pas d'attendre l'inspiration, c'est pas de regarder par la fenêtre en se grattant le ventre, c'est de dire j'ai rien branlé aujourd'hui, il faut quand même que j'avance un peu. Et avancer, c'est quoi? C'est faire une demi-page. Aujourd'hui, si j'ai fait une demi-page, j'ai bien travaillé. Oui. Jean Giraud, qui dessinait Blueberry dans la journée, et le soir, pour se reposer, faisait une page de Möbius. Lui, tu sais, il m'a scié les pattes pendant tellement d'années. Mais non, le travail d'artisan, c'est un artisanat, la bande dessinée. Y aller tous les jours, enfin tous les jours, oui.
C'est-à-dire, ça commence le matin et ça y va jusqu'au...
Oui, mais c'est pas la galère, quoi. Mais le matin, faut pas trop... Parce que le matin, je regarde ce que j'ai fait la veille et je dis, pas terrible, on recommence.
Alors justement, et on a vu ça dans les très beaux documentaires qu'Avril Tambouret vous consacre, quand vous prenez le recul, qu'est-ce qui vous fait dire, Jean-Claude Mézières, c'est un bon dessin, c'est un mauvais dessin, c'est un dessin à reprendre? Parce que nous, on a eu un exemple où vous avez fait un très très beau dessin, ouais, pour un album, ouais, et vous étiez...
Mais oui, il était mal pensé, c'était pas le dessin. La main n'est pas bonne un jour, mauvaise l'autre, et encore ça peut arriver, évidemment. Mais la connexion entre le cerveau et la main, c'est de mettre les bonnes choses à la bonne place, de trouver l'harmonie de la narration. Et donc tout ça, c'est cette petite science qui est quand même très compliquée à expliquer, mais de dire, mon dessin est mal foutu, les personnages ont l'air de sortir alors qu'ils devraient rentrer dans l'image et rentrer dans l'histoire. Et ben, ils ont l'air d'en sortir à la page 1. Et ben, ça va pas. Et ça, c'était parce que, ben justement, parce que j'avais le cinéaste sur le dos, qui était en train de filmer la veille, et qui, évidemment, C'est pas quand on est tout seul chez soi, parce que dessiner de la bande dessinée, c'est rarement au milieu d'une foule en délire, et donc c'est pas la vie de moine, hein, loin de là, mais il faut de la concentration.
Alors, pour être plus précis, par exemple, de tous les albums de la saga, aimeriez-vous reprendre un en particulier pour le retoucher, le redessiner, bref, l'arranger,
comme on dit ? Non, je suis pas Hergé. Hergé a fait ça et a repris tous ses albums parce qu'il avait toute une équipe et un studio qui bossaient pour lui. Hein, ça, il fait ce qu'il veut, le brave.
Non, mais même si vous ne le faites pas, est-ce que vous avez envie, par exemple...
Non, retoucher, non. C'est stérile. Pour moi, ça me paraît inintéressant. Et ce qui est fait, mais à coup de pas. Si ça va pas, eh ben, la prochaine fois, ça sera mieux. Et scoop, je suis en train de travailler sur un album en ce moment qui en est... péniblement, mais quand même à peu près à la moitié de l'album, et qui sortira quand il sera fini. Hein. Mon éditeur n'est pas en train de piétiner de rage, il sait que je vais continuer à travailler jusqu'au mot fin.
Au fil des années, ça prend plus de temps, l'élaboration d'un album. Au fil des années, vous savez, le fait que la série est une série patrimoniale, maintenant, on peut le dire.
Bah, oui, c'est-à-dire qu'en plus, je travaille dans l'imaginaire. Or, si je recopie, que je fais des photocopies des anciens décors en disant, hop, je n'ai ni vu ni connu, mes lecteurs, eux, vont le voir en disant, mais dis donc, ça c'est le décor de tel épisode, pourquoi vous l'avez remis là? Donc, faut pas tricher, faut pas escroquer les gens. Si on fait de la science-fiction, c'est qu'on a de l'imagination. Si on a de l'imagination, c'est qu'on peut le faire.
Alors, comment se fait une nouvelle œuvre? Est-ce qu'elle se fait en réaction à la précédente, ou est-ce que vous êtes plutôt dans la continuité ou le prolongement, ou au contraire, vous voulez toujours une forme d'opposition?
Il y a quand même, maintenant que nous avons conclu le cycle de la recherche de Galaxy City depuis 2010, quand même, on a terminé, fin des fins, la fin après l'ouvre-temps. Là, en ce moment, on fait plutôt des petits albums, enfin, des petits, on en a fait deux, hein. On en a fait un, et je suis en train de faire le deuxième, voilà. Et puis, Christin et moi, on n'est plus des perdreaux de l'année, alors on est quand même vieux un peu et fatigués, mais avec encore un peu de niaque, on a envie de faire des choses. Finalement, quand Evelyne Tranley a fini La Couleur...
Votre sœur, qui s'occupe de La Couleur,
J'ai vu les 30 premières pages que j'ai fait pour cet album-ci. Ah, bah, ça, c'est pas si mal que ça, quoi. C'est pas si mal.
Mais avant La Couleur, comment savez-vous quand un dessin est achevé, Jean-Claude Mézières?
Bah, c'est ou que j'en ai marre, ou que, j'ai le sentiment que ça y est, c'est calé. C'est calé, ça va. Ou par contre, en disant celui-là, oh là là. La gueule qu'il a, le pauvre Valérian, là, il est mal fichu. Ou carrément, les personnages ne vont pas parce que j'ai pas dessiné le décor et le décor, je peux plus le placer. Enfin bon, des trucs techniques en disant ça va pas. Je change et il faut pas que mes personnages soient comme ça. Il faut inverser. C'est comme si on visait mal une cible. Bah si tu vises pas la cible bien, bah il faut recommencer. Il faut prendre une deuxième flèche.
Avec le recul, on entend mieux votre discours quand vous nous disiez que Valérian et Laureline sont nés durant les 30 glorieuses après les guerres et que vous n'aviez pas besoin de super-héros parce que pour vous un super-héros était là en situation de crise et de guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles aventures de Valérian et de Laureline, est-ce que vous êtes toujours imprégné par les peurs du présent?
Oui, certainement. Avec le fait aussi que on n'est pas reparti pour un cycle d'histoire, hein, quand même. On va bientôt avoir 80 ans. À nous deux, ça fait 160. Ça suffit, hein. Donc, c'est vrai qu'on va pas se relancer dans le grand bond en avant et toute la force de ce qu'on avait envie de faire et qui était possible à développer. Là, on va boucler, j'espère, le mieux possible cet album. Et puis, on va peut-être laisser la place aux petits jeunes qui piaffent d'impatience en disant « ils nous emmerdent, ces vieux croulants, avec leurs bouquins, leurs expositions, place aux jeunes ».
Vous le dites tout en sachant que ce n'est pas du tout ce que disent les jeunes de votre travail, Jean-Claude Mézières. Mais alors justement, je vais vous poser la question à l'envers. Vous arrive-t-il à vous de retrouver avec les bandes dessinées d'aujourd'hui le plaisir que vous aviez enfant avec les histoires dessinées par Jigé, Hergé, Franquin? Autrement posé, plus simplement, est-ce qu'il y a des auteurs d'aujourd'hui qui vous plaisent, Jean-Claude Mézières ?
Certainement, mais avec le problème que je ne suis plus un lecteur de bande dessinée. D'abord parce que j'ai pas trop le temps, c'est vrai, j'ai pas trop le temps, et que je suis un regardeur de dessin, mais je ne suis plus un lecteur en désir de lecture. C'est ça, c'est l'amour que le lecteur donne à l'objet du livre, qui est le geste d'amateur et de connaisseur de bande dessinée. Je regarde des choses, je reçois des bouquins, je reçois des trucs admirables, je reçois des trucs, je dis, se foutent de la gueule du lecteur, ou en disant que j'aime pas, ou bien j'aime beaucoup, mais ça c'est vraiment invariable pour tout le monde, et surtout, c'est très rare que je puisse lire un bouquin de la page 1 à la page 60.
Progresse-t-on dans son art, Jean-Claude Mézières ? Je veux dire par là, est-ce que vous pouvez constater si vous avez progressé dans votre dessin en relisant, par exemple, dans l'ordre chronologique vos albums ?
Alors, c'est sûr que, comme dans tout, comme les sportifs se mesurent à leur record personnel, etc., dans certains bouquins, je me dis, ah tiens, celui-là, c'était un bon cru.
Par exemple ?
Métro Châtelet reste incontestablement pour nous d'abord un grand tournant dans les aventures stellaires de Valérian, parce qu'avant c'était du space opéra, etc. Et du fait qu'il y avait l'autre avec ses petits films sur les étoiles là,
ah, qui s'est un peu inspiré
il m'avait un peu énervé, ouais. Alors on s'était dit, on va pas faire la concurrence de faire un gros vaisseau, puis toi, moi j'en vais faire un plus gros, et moi je vais mettre encore plus de fusées, etc. dedans. Et on a là-dessus fait une espèce de volte-face extraordinaire, de dire, justement, on va faire une science-fiction qui se passe et dans le métro à Paris et dans les planètes, pour leur ligne, où ils sont en contact comme ça. Et je crois que c'est un bon cru, quoi, vraiment. Ça a donné, en plus, à Pierre, la possibilité d'aborder les années 86 pour justifier son fameux choc historique qui n'était pas simple à débattre.
Parallèlement à Valérian et Laureline, est-ce qu'il y a d'autres travaux, d'autres dessins que vous aimez particulièrement, Jean-Claude Mézières ?
Non, je ne suis pas un producteur de dessins, justement. Je suis un dessinateur qui est content d'avoir dessiné, mais pas de dessiner. Je ne suis pas du tout comme ces gars qui sont tout le temps en train de dessiner sur la table du restaurant ou sur des carnets ou des croquis, etc. Pour moi, le dessin, c'est le reproche. C'est quand je vois mes dessins, j'aime pas. Et je fais jamais des dessins pour le plaisir. J'ai du plaisir à avoir dessiné des choses, mais je fais pas des dessins pour le plaisir. Et c'est à l'arraché, c'est dans l'effort. Et ça me rappelle Paul Gillon, qui était un sacré dessinateur, et qui, lui, apparemment, disait la même chose, en disant, mais vous avez déjà vu des cordonniers qui emportent des chaussures à réparer pendant les vacances? Les dessinateurs, non, je dessine pas pendant mes vacances. Et il avait sorti cette comparaison qui était assez savoureuse. Dessiner pendant les vacances, j'ai essayé de faire 2-3 croquis une fois. Mais c'est pas de dessiner des chevaux quand j'étais là-bas aux États-Unis dans un ranch. C'est dimanche après-midi, je vais dessiner des choses.
Non, mais dessiner autre chose, par exemple, c'était l'exemple de Lady Polaris, par exemple, de sortir d'une série.
De sortir effectivement de la science-fiction pour faire une expérience. D'abord, il y avait le fait que Christin et moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas voyagé ensemble, puisqu'on avait fait ça beaucoup aux États-Unis et dans d'autres endroits, mais ça faisait quelques dizaines d'années qu'on n'avait pas fait ça. Et Pierre est venu avec cette petite idée de scénario, de dire on va faire une espèce d'enquête policière et journalistique dans tous les ports d'Europe. Et on a fait les Dipolaris, qui étaient d'abord une des premières graphic novels, des romans graphiques. C'était un des premiers, puisqu'on a fait ça en 86-87. Et alors l'accueil a été mitigé. Beaucoup de gens qui connaissaient des Valérians voyaient l'album, mais c'est pas de la BD. Ah, c'est pas de la BD. Alors ils reposaient le truc, déçus. Alors ça, l'accueil a pas. Mais honnêtement, quand même, la première édition a été épuisée. On a refait une deuxième édition il y a quelques années. Mais visiblement, les gens, ils aiment bien catégorifier tel auteur. S'il fait ça, et il mourra en faisant ça. Hein. Et il ne faut pas qu'il touche à autre chose, il n'a pas le droit.
C'est une frustration pour vous de ne pas avoir eu l'occasion de faire autre chose ou...
Non, parce que moi, quand je fais autre chose, ben, j'ai travaillé pour le cinéma, j'ai travaillé pour des festivités comme Lille 2004, j'ai fait des voyages soi-disant reportages quand je me suis baladé au Kerguelen, etc. J'aime bien faire autre chose, mais c'est rarement lié, enfin c'est des fois lié à une production. Les croquis, par exemple, que j'avais fait pour le cinéma, que ça soit pour le Cinquième Élément ou que ça soit pour un autre film allemand et soviétique à l'époque, qui a eu un très mauvais résultat, et tant pis, ça s'appelait le Dieu rebelle. Mais j'avais fait une série de croquis qui était franchement pas mal, parce que je les avais fait en toute inconscience. Et c'est vrai que quand c'est pas un dessin qui est prévu pour une publication, je me laisse aller beaucoup plus facilement dans un croquis très très enlevé et plutôt spontané, quoi.
Allez, dernière question. Comment vivez-vous la critique de vos albums, Jean-Claude Mézières ?
Bon, ça a jamais été violent. D'abord parce que on a eu la chance effectivement d'avoir plutôt des critiques positives. On s'est rarement fait descendre en flammes. Il y a eu des périodes, la grande période de Métal Hurlant, où visiblement Christin et moi on se défonçait pas assez avec des substances bizarres, parce que les autres faisaient des trucs beaucoup plus vrais. Nous on avait un récit qu'on essayait de garder et ça nous convenait très bien, donc on était un peu pour les enfants, voilà. Mais autrement, Valérian a toujours été bien reçu. Et puis il faut dire ce qui est, c'est que la critique, c'est maintenant qu'on commence à faire une vraie étude par des gens qui prennent au fond des problèmes littéraires pour en faire des constats en disant bon, bah, la bande dessinée c'est comme un roman, il y a des bons, il y a des mauvais, etc.
Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites tant mieux, enfin.
Ah oui, un peu plus sérieux, enfin voilà. Sinon après c'est ah ben voilà machin, ben nous ça fait son 258e épisode de Zozo et les Grapugnos, quoi. Non, la critique ça n'a pas une réelle influence sur la production. Je suppose que s'il y avait un silence total critique, ça me gênerait aussi, évidemment.
Et pour les ventes, c'est important pour vous? Quel album?
C'est bien comme ça que je gagne ma vie, c'est évident. Donc, si on vend pas d'album, on n'est plus dessinateur, hein, parce que les éditeurs ne sont pas des bienfaiteurs en disant mon petit gars t'es bien sympa, eh ben tu vas faire encore un album que je vais envoyer au pilon dans 3 mois, quoi. Bien sûr que non. Il faut qu'on arrive à vendre. Alors les plus grosses ventes sont pas forcément le reflet d'une qualité, d'une suprématie. Cela dit, il est difficile quand même de dire que ça vaut pas un clou et que ça s'est vendu à 5 millions d'exemplaires.
Merci beaucoup Jean-Claude Mézières, merci.
Voilà, ben merci aussi.
C'était la masterclass de Jean-Claude Mézières avec Toufik Hakem. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Vanessa Nadjar.